J'aime bien aussi l'expression qui identifie les gens à leur entreprise. On disait qu'on était de la maison, la grande maison. Barcelona, c'était la grande maison et on était enfants de la maison. Ceux qui avaient fait les Arpètes, on disait qu'on était les enfants de la maison. Alors, il y avait un petit jeu subtil entre ceux qui avaient fait les apprentis et ceux qui n'avaient pas fait. Alors des fois, en se charriant, on disait « mais tu ne peux pas comprendre ça parce que tu n'es pas un enfant de la maison ». Mais ça veut dire que c'est quand même une famille, quoi. Quelque part.
La grande maison. Histoire d'Arsouille. À retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci.
Pour commencer, je vous demanderais juste du coup, vous, quand est-ce que vous êtes entré à l'Arsenal? À quel âge et combien de temps vous y êtes resté?
Moi, je suis rentré à l'Arsenal en 1963, et j'avais 15 ans.
D'accord.
Je finissais une troisième, et puis j'ai fait comme on faisait à l'époque. J'ai passé le concours d'entrée aux apprentis de l'Arsenal. C'était un concours annuel, avec en général 90 places. Et on était, je ne sais pas, plus de 1000 ou 1300 à passer le concours. C'était très convoité à l'époque. Ouais. Donc j'avais 15 ans. Et j'y ai passé 37 ans parce que je suis parti en 2000.
En 2012, Gérard Cabon publie un premier livre intitulé Yaskif. Puis en 2015, Yaskif deuxième couche. De lexique des expressions de l'Arsouille, l'Arsenal brestois. Ces deux livres faisaient suite à un long travail d'archivage que Gérard Cabon menait tout au long de sa carrière au sein de l'Arsenal, alias la Grande Maison, expression qui donnait justement son titre à notre émission.
Mon père était à l'Arsenal. Mon père travaillait au Capucin aussi, à l'atelier d'électricité. Et il avait un petit carnet, il notait toutes les histoires, anecdotes de ses copains, les traits d'humour, les choses comme ça, il notait tout. Et donc il nous amusait le soir, il nous racontait plein de trucs, c'était super. Et donc moi, dès que je suis arrivé au boulot, j'ai continué, j'ai fait pareil. J'avais un petit carnet, je notais aussi les histoires, les anecdotes au fil du temps. Et puis je les racontais des fois avec des copains ou dans les réunions syndicales, parce que j'étais syndicaliste. Et puis du coup, les autres copains m'amenaient aussi d'autres histoires, quoi. Donc j'ai récupéré ce qui traînait au Capucin. Et puis après, dans ma vie, j'ai été aussi permanent syndical à l'Arsenal. Donc du coup, mon horizon s'est élargi, là, parce que quand on est permanent à l'Arsenal, on couvre l'île Longue, on couvre les ateliers de construction de la Ninon, on couvre même les bases aéronavales, la Pierrot-Saint-Nicolas. Et donc au fil du temps, toutes ces histoires, j'en ai récupéré comme un grand stock. Puis j'étais devenu un petit peu, entre guillemets, un petit spécialiste de raconteur de ces histoires.
D'accord.
Voilà, puis j'ai pensé qu'il fallait pas que ça aille à perte, comme dit ma belle-mère. Ma belle-mère, à la fin des repas, elle dit taper dans les gamelles, il faut pas que ça aille à perte. Et je pensais que ces histoires, il fallait pas qu'elles aillent à perte, comme disait ma belle-mère. Il fallait les conserver à tout prix, quoi. Donc c'est pour ça que mon intérêt, et puis je suis brestois, quoi. J'aime cette ville et elle a un langage particulier, très, très imagé. C'est pas de l'humour, je trouve que c'est de l'humour qui est pas trop lourd, il est assez fin souvent, donc ouais, ça vaut vraiment le coup. Et paradoxalement, il n'y a pas ça dans les autres arsenaux. Il n'y a pas. Parce que quand on a écrit les Yaskif, un dialogue m'a demandé si on faisait un sur l'Orient, Cherbourg. J'ai appelé mes copains de Cherbourg, mais je lui ai dit de suite que, comme je les fréquentais souvent, hein, par le syndicalisme, et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas une réserve comme ça. C'est très caractéristique à Brest.
Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque. On avait fini notre jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, plus la princesse.
Et du coup, comment se parler, comment vous le qualifierez? Est-ce que C'est un argot, c'est une langue, c'est...
C'est une langue avec ses codes. Je pense que de tout temps, les gens ont besoin de communiquer. Hein. Ils communiquent avec des langues, bien sûr. Ils communiquaient avec des signaux de fumée, ils communiquaient avec des drapeaux quand c'était la marine. Avant que de tout temps, du morse, etc. Il y a plein de combines. Il y a une partie de cet argot là, qui servait sans doute à coder un langage. Par rapport au chef, à l'environnement, on trouvait d'autres mots pour dire ce qui n'est pas tout à fait dans les règles de l'art. Après, je pense qu'il y a aussi l'héritage du breton. Le breton est une langue très imagée, pleine de métaphores, tout le temps, tout le temps. Hein, les bretons, ils disent pas bonjour, mais ils disent comment ça va, tout va bien. Et puis, ils ont toujours des phrases et des formules très imagées. Donc, je pense que l'héritage vient de là aussi en partie. Quoi. Comme les Bretons avaient l'habitude de toujours avoir des métaphores. Le technicien argoulou, par exemple. Le technicien argoulou, en breton, c'est la lumière. Il y avait des groupes de techniciens qui roulaient un peu à leur caisse, qui faisaient comprendre aux ouvriers qu'ils étaient un peu plus forts qu'eux. Et plus... Donc les ouvriers les appelaient les argoulous, techniciens argoulous. Donc finalement, les ouvriers de l'arsenal, moitié breton, moitié français, ont continué à le faire. Et puis finalement, les Français l'ont fait aussi. Je crois que les gens se reconnaissent encore dedans quand même, parce que le nombre de gens, j'en ai vendu combien le premier, on a passé les 11 000 sur le vendu. Le nombre de gens qui sont pas de l'arsenal et qui m'ont dit « mais mon père disait ça, mon grand-père disait ça, à la maison on dit ça ». Maintenant, ça m'explique pourquoi. Donc c'est des choses qu'ils entendent ou qu'ils ont entendues, mais ils ne savaient pas trop d'où ça venait. Quoi. Donc, en fait, ça a décodé pour les gens plein de choses qu'ils entendaient, qui faisaient partie de leur langage, mais... Les ouvriers de l'arsenal, ils étaient nombreux d'abord, parce qu'ils faisaient 7000. Ils étaient quand même... C'est invraisemblable le nombre d'ouvriers de l'arsenal qui étaient entraîneurs de foot, dans la vie associative diverse, et donc qui s'occupaient des jeunes, qui, dans le syndicalisme, on les retrouvait dans la vie associative, ouais, ça, partout. Dans les maisons pour tous, dans les centres sociaux, dans les patronages laïcs municipaux. Donc tous ces types-là, comme ils avaient leur grande gueule, parce qu'en général, ils avaient beaucoup de grande gueule quand même, comme ils parlaient, ça passait comme ça, quoi. Ça se transmettait dans la ville. Puis après, au bistrot, et puis il y a plein de lieux comme ça où ouais, ça se véhicule quand même. Les chefs, c'est sûr que dans toute collectivité, ceux qui ont le pouvoir sont regardés un peu par ceux qui n'ont pas le pouvoir. Un peu d'une manière un peu méfiante, sans doute, quelque part, et puis des fois aussi admirative, hein, parce qu'il faut aussi le dire, mais ils sont quand même, ils se portent bien à avoir des images. Donc l'ingénieur peut être un âne bourré de maths, s'il est polytechnicien. L'âne bourré de maths, c'est venu d'un polytechnicien qui est arrivé au atelier des Capucins, il visitait les Capucins avec son fiston. Et puis il y avait un tourneur qui faisait un magnifique copeau bleu là, qui sortait de son tour, et pour le montrer à son fils, il a pris le copeau à la main. Et il s'est brûlé, bien sûr, atrocement la main, et puis il est parti à l'hôpital, hein, direct. Et le tourneur, lui, il a tiré la cigarette de sa bouche, il l'a regardé, et il dit pouf, un âne bourré de maths. Donc c'est resté un peu dans le langage quand on voit un polytechnicien qui dit tiens, voilà, un âne bourré de maths qui arrive. Donc les types qui ont une tête bien faite, mais où le bon sens, c'est pas encore. Voilà.
Okay.
Ouais. Les jeunes ingénieurs d'aujourd'hui, je vois que les jeunes, ça continue parce que les jeunes de la jeune génération arsenal appellent, maintenant ils disent qu'ils sont entourés d'anthracite véliplanchiste. Alors anthracite, et, je ne sais pas plus dire génération, c'est même pas ce que c'est que l'anthracite, si.
Je connais le mot, ouais. Maintenant la définition.
Anthracite, c'est le charbon qui débarquait sur les quais de Moisse, hein, donc anthracite c'est gris ou noir, voilà, il y a un costume gris ou noir, anthracite. Et véliplanchiste parce qu'ils marchent avec le portable et l'oreille au vent, un peu légèrement inclinée, et ils avancent très vite. Ils ne prennent pas le temps de dire bonjour à personne, ils sont préoccupés. Voilà. Donc ils sont anthracite et véliplanchiste. J'adore cette expression parce que ça veut dire que. Ouais, c'est encore une métaphore. Hein, donc comme quoi ça continue. Quoi. Donc l'âne bourré de maths, bon, les chefs d'équipe, c'est bien sûr des sales types. Celui qui est responsable et chef du réseau des eaux usées sur un bateau, c'est important parce que sur un bateau, il y a 8000 personnes, il va devenir l'ingénieur des caisses à merde. celui qui a une sale gueule comme chef, il va dire qu'il a une figure de sens interdit. Il a une gueule de sens interdit.
Est-ce que du coup, il a toujours été... Parce que je vois qu'il y avait quand même un jeu par rapport au... constant, en fait.
Constant, il y a d'autodérision aussi, entre professions, entre métiers. On pouvait se dire... C'est une boîte de chambreur, mais qui... Entre nous, on pouvait tous dire. Par contre, de l'extérieur, attention, entre nous, je pense que c'était très, très ouvert.
Et est-ce que du coup, il a toujours été toléré par les chefs
Il faut dire aussi que dans une entreprise comme ça, pendant des générations, sur une promo d'apprentis de 90 apprentis, il y a une trentaine qui finissaient leur carrière ouvrier ou chef d'équipe, une trentaine qui finissaient technicien ou cadre intermédiaire, et puis une petite trentaine qui finissaient ingénieur. Donc, d'une promo de rentrée, donc ces gens-là qui étaient devenus ingénieurs, ils avaient fréquenté le même monde que les autres. Ce n'étaient pas des gens qui avaient fait les grandes écoles, ils étaient du même monde. C'était l'exemple que je cite souvent, c'est Louis Petitbois qui est rentré apprenti, pas à Brest mais à Lorient. Il est devenu directeur de l'arsenal de Brest. Donc c'était une époque où on pouvait faire des parcours comme ça, quoi.
Et même par rapport aux polytechniciens, enfin
des par rapport aux il est devenu le directeur de l'arsenal de Brest, il avait fait les arpètes à Lorient, quoi.
Oui, mais par rapport à la tolérance.
Ouais, ouais. Et ça faisait un bon mélange, même si on appelait les polytechniciens les ânes bourrés de maths, on savait bien qu'ils avaient quand même une tête assez bien faite, quand même, ils avaient des connaissances. Par contre, ils manquaient presque tous de sens pratique et des relations humaines absentes, quoi. Ils n'apprenaient pas ça à l'école. Comme ils étaient beaucoup d'entre eux issus de familles qui étaient non ouvrières, parce qu'ils avaient fait des grandes écoles, donc ils étaient dans un monde qu'ils ne connaissaient pas, en fait. Donc il fallait... Ceux qui avaient le bon sens et qui étaient sympas, on les aidait à... Moi, j'ai aidé beaucoup d'un jeune ingénieur à aller au contact des ouvriers, des chefs, aller viens ici, on va discuter avec des gens. Comme ça, si le jour où tu vas faire une connerie, si tu es aimé, si tu aimes bien, ils te diront que vous faites une connerie. Et si s'ils ne peuvent pas te sentir, ils te laisseront faire la connerie, quoi. Et j'en ai vu des belles. Donc, ils n'apprenaient pas ça à l'école. Le bon sens. Et quand il y avait un mélange d'ingénieurs du tas et ingénieurs polytechniques, c'était une belle idée d'encadrement d'une entreprise. Aujourd'hui, l'essentiel des cadres viennent de l'extérieur, des grandes écoles, et on a perdu quelque chose au niveau du lien dans l'entreprise. Mais bon.
Est-ce que ce parler, il a évolué, vous ? Est-ce que de votre entrée à votre sortie, est-ce que vous l'avez vu évoluer, ce parler ?
Il évoluait un peu au gré des nouvelles techniques quand même. Par exemple, avec le plan d'un bateau, quand j'étais jeune, on disait à quelqu'un qui voulait voir, il n'y a qu'à consulter le bateau papier. On appelait le plan général d'un bâtiment, et Dieu sait si c'est monstrueux. Et donc tous les plans d'un bateau, hein, on appelle ça le bateau papier. On va voir qu'on n'a qu'à consulter. Mais non, et après à la fin, c'est des bateaux écrans. Comme quoi...
Oui, bah oui.
Mais ça reste le bateau écran quand même.
Oui, mais ça s'est adapté.
Ça s'est adapté, oui. Mais le mot est resté bateau papier. On est passé du bateau papier au bateau écran.
Et est-ce que vous avez été vous-même du coup délégué syndical ?
Oui.
Est-ce que je pense à notamment un jaune, je sais qu'un jaune c'est un non-gréviste.
Oui, un jaune c'est un non-gréviste. C'est pas propre à Brest, mais.
C'est pas propre à Brest, non.
Propre à Brest.
Mais est-ce que du coup ce parler, il avait vraiment, j'imagine, un rôle fédérateur, je pense, aux luttes syndicales, ou même pas, en fait, dans l'idée de. Parce qu'au gré des interviews que j'ai pu faire déjà, il y a vraiment l'idée d'une famille au niveau des ouvriers.
C'est une famille. On peut expliquer ça aussi, dans une famille, il y a des langages, chaque famille a un peu ses codes. Et l'Arsenal, c'est une grande famille, et l'avantage de l'Arsenal, l'avantage ou la particularité de l'Arsenal, c'est que c'est une famille qui dure depuis, qui traverse le temps. Depuis 1630, on peut dire, c'est la naissance des Arsenaux à Brest. Et on fait partie de cette grande lignée, là, donc la marine à voile, la marine à bois, les professions de bois, et puis après le métal qui arrive, et puis après le nucléaire qui arrive, et puis on passe à la vapeur, hein, nucléaire, etc. On fait partie de toute cette lignée. Bon, en théâtre, on parle souvent d'unité de temps, d'unité de lieu, etc. Mais je pense que c'est un peu pareil. Il y a une unité de lieu, parce que c'est le même lieu, qui n'a pas bougé. L'unité de temps, ben, c'est des siècles, hein, 2 siècles et demi là, qui sont là. Donc on trouve un peu comme dans le théâtre, je pense, c'est un théâtre en fait. Bon après c'est un lieu aussi où les gens travaillent en construction navale pas mal en équipe quand même, à bord d'un bateau, c'est des groupes, c'est des équipes. C'est des gens qui arrivent à la même heure, du moins pendant des générations, arriver à la même heure le matin, pause à midi avec du temps à midi pour manger. Et du temps, ouais, donc il y avait du temps ensemble. Bon, d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup parce que pour air variable, on arrive en dehors dispersé. À midi, on prend un peu le temps de manger ou on casse-croûte, et puis, etc. Mais tous ces moments, je pense que les grands moments d'échange étaient le matin au vestiaire, à midi au vestiaire, et puis le repas à midi à table. C'est là que je véhiculais en fait les histoires, se compter de l'un à l'autre. Je pense qu'on a sans doute un peu perdu ce côté-là. Par contre, la mémoire collective, il y a moins sûrement de ces lieux où on avait le temps de déconner, de raconter des histoires, de se passer. On est dans un monde qui est un peu plus individualiste. Hein. Les lieux de transmission, en fait, c'était souvent repas de midi, on avait du temps. Midi et demi, 2h moins le quart, et repas à table fixe, table de 8, on avait le temps de se raconter. Comme on n'avait pas le droit de parler de boulot, c'était interdit. Ça fait partie des interdits Arsenal. À midi, on ne parle pas de boulot. Les jeunes générations font bien en prendre le son, parce que maintenant, non seulement ils parlent de boulot, mais ils font même des plateaux repas pour encore travailler pendant l'heure de midi. Bon, c'est le progrès.
Et c'est vrai que ça revient beaucoup aussi, l'idée de que le monde est devenu plus individualiste par rapport à ce que vous avez pu vivre
c'est pas pareil.
À l'Arsenal. Est-ce que du coup, je pense que pour vous, c'est important de cette transmission, vous faites des visites, vous avez écrit ce livre, ces deux livres, pardon.
Oui, ah, j'ai envie de... faut que ça se transmette, ça. Je pense que le boulot est fait, mais au moins les livres sont là toujours, hein. Au moins les écrits restent, comme on dit. Hein.
Pour terminer notre entretien, Gérard Cabon me faisait lecture d'un texte qu'il avait écrit, composé uniquement de ses expressions propres à la grande maison. Je vous laisserai en sa compagnie, porté par ces images dont vous pourrez avoir la traduction en seconde lecture.
Alors, la version Arsenal, c'est « Au nom de Dieu, je n'aurais jamais dû appuyer sur la craie si fort hier soir, mais c'était jour de paille. La manivelle étant au bout du lit toute la nuit, j'ai dû aller 3 ou 4 fois au grand téléphone blanc passer le permis poids lourd. Pas de café, et encore moins café des pauvres ce matin, j'enfourche mon cheval d'acier pour aller au chagrin dompter la matière. » J'ai bien mis mon casque, mais je pense que j'aurai le casque lourd à poste au moins jusqu'à midi. Tiens, il y a un compteur bleu à la porte de l'Arsenal. Ce n'est pas le jour pour sortir de la cam. Enfiler le bleu, me voici à la mine. Comme si c'était le jour, les grillons sont déjà à l'action, c'est bien ma chance. Alors les gars, ça avance le mail, vous avez presque terminé. Tout en inox, pas de cochonium, et c'était mieux que le plan. Alors les gars, vous pouvez lever votre dos. J'ai un rendez-vous entre 11h15 et midi moins quart. Pour remettre les niveaux à jour, il reste des chutes de la jambe du chinois et du sirop d'Écosse de l'anniversaire à Pierrot. Aujourd'hui, pas de gueule d'or, mais cap sur le continental du pauvre, voir s'il n'y a pas un sanglier dans la salle des coffres. L'après-midi, s'y tire lentement, faut faire gaffe car il y a un âne bourré de mat qui rôde à bord, faisant du bruit à bon escient. 18h05, enfin la sirène. Arrêt obligé, c'est la mère Casbite, d'excuser une tartine de houblon avec des copains. Sauf Yvon, car sa Janine est venue le récupérer à la porte. Avec la boîte à sanglots. car Jeannine, son tourment, est venue la récupérer à la porte avec la boîte à sanglots. Il va rentrer direct à la carrée. Demain, pas de maille, on va à l'enterrement de Lucien qui a raidi ses pattes brutalement. Après, on ira boire une tasse à sa santé.
C'est vrai que c'est très drôle, enfin c'est très imagé,
ah ouais,
beaucoup d'images.
Je peux te faire la vraie version en plus si tu la veux, mais... Au nom de Dieu, je n'aurais jamais dû boire autant hier soir, mais c'était jour de paye. Donc le lit s'est mis à tourner, en fait c'est la manivelle au bout du lit, hein. Le lit s'est mis subitement à tourner, j'ai dû aller 3 ou 4 fois aux toilettes, c'est le grand téléphone blanc en fait.
Le grand téléphone blanc.
Me mettre à genoux devant la cuvette, donc passer le permis poids lourd, c'est ça. Accrocher la cuvette à la main et puis on disait qu'on passait le permis poids lourd.
D'accord.
Pour évacuer. Mais tout le monde sait de quoi on parlait quand on parlait de ça.
Oui, quoi. Bah, oui.
Pas de café et encore moins de câlin, donc le café du pauvre, c'est quand on... Ceux qui prétendaient en fait faire l'amour le matin, café des pauvres. T'as pas le temps, mais le temps de baiser, de tirer un coup et puis de rentrer. Donc pas de café, mais encore moins de câlin ce matin. J'enfourche mon cheval d'acier, c'est le vélo moteur, pour aller au boulot. J'ai bien mis mon casque, mais je pense que j'aurais un gros mal de tête. D'avoir un casque lourd, c'est avoir un mal de tête. Ça se dit encore sans doute, je crois, ouais. Il y a un jeune flic maritime dont un compteur bleu à la porte, ça veut dire qu'il y a un jeune flic maritime. Un jeune flic maritime qui était en... C'était la salle militaire dans les gendarmeries, ils avaient un galon bleu en haut. D'un. Et on les appelait les compteurs bleus, parce que les compteurs bleus, EDF avait fait des compteurs bleus à l'époque, les compteurs électriques, qui faisaient la publicité pour les compteurs bleus qui étaient soi-disant plus économiques. Donc des compteurs bleus à la porte, et ce n'est pas le jour pour sortir de la cam, sortir du matériel. Pour filer le. Qu'est-ce que j'ai dit après ? Le bleu. Me voici au bord du bassin de Radoub, et puis là, il dit ben. Me voici à la mine. En fait, les ouvriers disaient que quand ils descendaient au bassin, ils descendaient à la mine.
Au fond du bassin.
Ouais. À la mine. Ils descendaient à la mine. Donc à l'Arsenal, on descendait à la mine. Comme si c'était le bonjour, les grillons sont en action. En fait, c'est les piqueurs de tôle. Le mec qui pète la rouille à bord des bateaux avec des marteaux pneumatiques. Et des... Donc c'est voilà. Alors, ben, les chefs qui arrivent après, alors les gars, ça avance le travail. Et ben oui, vous avez presque terminé. Tout en inox. Donc je dis tout en... En inox, pas de cochonium. Le cochonium, c'était des métaux médiocres. Quand on disait, tiens, ma machine à laver est foutue, le mec a amené son. En bricole, il a amené son, quand même son truc à l'arsenal, et puis il a dit, ah, c'est du cochonium, c'est de la merde. Ou l'acide Quimper. On considère aussi qu'à Brest, on était l'huile métallurgique ouvrière, et que là-bas, à Quimper, c'était que des ronds de cuir.
D'accord.
Et l'acide Quimper. Ok. Bon, il t'a fait ça, l'acier de Quimper. Vous l'acier a ferré les ânes aussi. Donc, tu vois, mieux que le plan. Alors, j'adore cette expression-là. Quand les cadres arrivaient à bord, de demander, alors les gars, le boulot avance, c'est bien fait, c'est fini, mieux que le plan. C'était vraiment l'espèce de revanche de l'exécutant sur le concepteur. Non seulement j'ai fait ton boulot, mais mieux même que t'as pensé. C'était lapidaire, ça serait comme ça. C'est souvent lapidaire le langage, hein. Mieux que le plan. Et puis alors, lève ton dos, levez, vous pouvez lever votre dos, lever son dos, c'est quand on a fait quelque chose de bien, ou t'as marqué, même au boule, tu marques un carreau au boule, ou tu marques un but, tu lèves ton dos. C'est-à-dire, redresse-toi, sois fier de toi.
Ok.
Lève ton dos, il faut l'inventer. Enfin, je pense que cette métaphore vient du breton, je pense. Mais on disait pas, sois fier de toi, quoi. Non, lève ton dos. Tout le monde sait de quoi on parle. Et puis... J'ai entre un rendez-vous entre 11h15 et midi moins quire, donc 11h15 bien sûr et midi moins quire. C'est évident ça. Il reste un fond de la bouteille de Ricard, c'est la jambe chinoise. Et le whisky, c'est sirop d'Écosse. On va pas manger au restaurant de l'Arsenal, mais chez Jackie, alors c'était le Continental du Pauvre, c'était un restaurant qui avait au Capucin. Restaurant un boui-boui infâme qu'on appelle le Continental, parce que le Continental c'est quand même, pour les ouvriers d'Arsenal, c'était quand même le haut de gamme de la ville. Nous c'était le Continental du Pauvre, on appelait ça. Et puis celui-là il ramassait des sangliers qu'il mettait dans la salle des coffres, on appelait ça, il y avait des congélateurs, il mettait des sangliers qu'il récupérait je sais pas où, chez les chasseurs, avec les chasseurs. Donc l'après-midi, il y a un ingénieur de Polytechnique, bon, je te dis, voilà.
Il y a une boîte.
Oui, et la sirène zone, obligé d'aller chez la mère Casbut, c'était un bistrot de Port-Jean-Bart. Boire une bière, donc boire une tartine de houblon. Et puis ils vont car son tourment, la femme, l'épouse, le tourment. Ouais. Le tourment qui arrive, qui va t'attendre avec la boîte à sanglots. La boîte à sanglots, c'est le landau. Elle est mieux que le landau, la boîte à sanglots. Il va rentrer direct à la carrée, voilà. Puis demain, il n'y a pas de travail, alors, ben, on va à l'enterrement de Lucien. Alors, on disait pas non plus. On disait, même dans l'étoile, même dans, dans la tristesse, parce que les gens étaient tristes, c'était leur pote qui était mort, mais ils ne disaient pas qu'il était mort. Il arrêtait pas.
Il y avait l'euphémisme.
Ouais, il y a Raymond qui a rédit ses pattes avec beaucoup de tristesse, mais il disait, ah, c'est comme si on ne pouvait pas dire les vrais mots, des fois. Avec beaucoup de tendresse. Hein. Il y a Raymond qui a rédit ses pattes. Alors, on va aller. On dit, c'est pas de brutalement. Donc, c'est des, bon, c'est des traits d'humour assez particuliers quand même. Donc, quoi, on peut se. Dit comme ça rapidement, c'est sûr que la moitié des gens ne comprennent pas ce qu'on raconte. Nous, on sait de quoi on parle.
La Grande Maison, une émission de Martin, Cause et Léouette, à retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours, y a tout ça en raccourci.